Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le débat du jour. C'est un procès comme il y en a pratiquement chaque semaine en France en ce moment. Il a commencé aujourd'hui à Paris, le procès d'une filière djihadiste, celle de Lunel dans le sud de la France, une commune connue pour le grand nombre de djihadistes qui en sont partis pour le théâtre irako-syrien. Ce procès, comme d'autres, pose la question du suivi des radicalisés, de l'évaluation de leur niveau de dangerosité, que ce soit dans le milieu pénitentiaire, mais surtout en dehors, car la question va se poser avec une grande acuité dans les mois qui viennent. Il serait une soixantaine de détenus à finir leur peine dans les deux ans qui arrivent. Comment suivre les radicalisés? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous dans ce studio. Christophe Rouget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commandant de police chargé de la communication du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et Marc Ecker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et vous êtes l'auteur d'une étude à paraître le 10 avril intitulée « 137 nuances de terrorisme » parce que vous avez étudié le profil de 137 personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou en lien avec le terrorisme. Les attaques de Trèbes et de Carcassonne qui ont fait 4 morts il y a presque 2 semaines maintenant l'ont montré, la menace terroriste reste élevée en France. L'auteur de l'attaque était signalé, on va reparler des différents fichiers qui existent, mais il est très difficile d'anticiper un passage à l'acte terroriste, Christophe Rouget.
Oui, c'est très difficile, cette affaire, elle ressemble déjà à l'affaire Mera en 2012. Pourquoi c'est très difficile? Parce que nous avons une masse d'informations à traiter. Nous avons des réseaux sociaux à surveiller, nous avons les informations qui remontent du terrain, et surtout nous avons un flux de personnes très important. C'est-à-dire nous avons les personnes qui voulaient partir sur les zones de combat, celles qui reviennent de ces zones de combat, celles qui sont en prison, et celles qui peuvent se radicaliser du jour au lendemain.
Et qui aident tous ces gens-là. Voilà.
Voilà. Nous avons cette masse de personnes à surveiller. On a un fichier qui recense ces personnes radicalisées. On a près de 19 000 personnes dessus. Certaines ne sont pas actives, d'autres oui, mais il faut toujours une surveillance. Donc la difficulté, elle est bien là, c'est de gérer ce flux et de le gérer dans le temps, puisque dès le départ, dès que le conflit a commencé en Irak, nous avons alerté les pouvoirs publics en leur disant « Attention, on va avoir des problèmes pendant 20 ans, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des gens qui vont revenir, et c'est toute la difficulté pour les services de renseignement. »
Alors les fichiers, on va en reparler. Marc Ecker, c'est pareil, vous, dans votre étude, vous avez pu constater qu'il y a quand même quelques petites récurrences pour le passage à l'acte, mais en fait, la majorité des gens ne passent pas à l'acte, d'où la difficulté, quoi.
Oui, le terme profil type et portrait robot est souvent utilisé, a même été repris dans les médias à propos de mon étude. Moi, je n'emploie pas ce terme-là. On pourrait parler de profil type ou de portrait robot si on avait 95% ou 98% de personnes correspondant à un profil donné. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des récurrences, des tendances fortes, notamment par rapport au niveau d'éducation très faible, par rapport à la difficulté de s'insérer dans le marché, sur le marché du travail, par rapport à le lieu de résidence, notamment dans des quartiers prioritaires, par rapport au passé délinquant, par rapport aussi aux facteurs migratoires, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a, pour mon échantillon, à peu près 60% de personnes dont les parents étaient originaires du Maghreb. Donc on a ces facteurs récurrents, mais évidemment, une fois qu'on a identifié ces facteurs-là, bah ça permet un petit peu de réduire le spectre, mais ça ne nous donne pas le nom, l'adresse des personnes qui vont passer à l'acte, puisqu'évidemment, on a des dizaines, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui correspondent à ces critères et qui ne vont jamais passer à l'acte.
Oui, c'est l'immense majorité de ceux qui correspondent à ces critères ne passent pas à l'acte. Alors, bon, les fichiers, la fameuse fiche S, S pour Sûreté de l'État, dont on entend souvent parler dans les médias, dans la bouche des journalistes, cela recouvre des cas très hétéroclites et ce n'est pas forcément pertinent, Christophe Rouget.
Parfaitement. La fiche S, elle génère tous les fantasmes. Tous les fantasmes, et notamment des fantasmes entretenus par des hommes politiques qui ont une vision populiste et qui disent sur tous les plateaux, il suffit de mettre les fichiers S en prison. Donc, obligatoirement, les gens se disent, ben, oui, ils ont raison, c'est facile, ça va régler la solution. Qu'est-ce que c'est la fiche S? C'est par exemple quelqu'un de votre famille qui va signaler que vous êtes en train d'être radicalisé, d'être dangereux. On va faire des premières vérifications et on va s'apercevoir qu'il y a peut-être des soupçons. Les services de renseignement vont vous inscrire au fichier des personnes recherchées avec une conduite à tenir, fiche S11 par exemple, ce qui n'est qu'une conduite à tenir pour qui? Pour les gardiens de la paix qui sont dans un aéroport ou sur la voie publique.
Et qui feront un contrôle d'identité.
Qui feront un contrôle. Qu'est-ce qu'ils vont faire au moment de ce contrôle? La fiche va leur dire, prendre l'identité de la personne, relever le numéro d'immatriculation, c'est une conduite à tenir, et on va faire remonter cette information au service d'un renseignement. C'est juste une balise pour recueillir des informations, ni plus ni moins.
Alors oui, parce que dans le fichier S, il y a des radicalisés, effectivement. Il y a aussi des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, des hooligans de différents clubs de football.
Des
donc ça, voilà, on peut pas mettre tous ces gens en prison, évidemment. Ouais. Ce n'est pas possible. Il existe un autre fichier, et ça rejoint un peu votre étude, Marc Ecker, qui croise beaucoup d'informations. C'est le fichier FSPRT, le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. C'est un fichier spécialisé. Cette fois-ci, donc la radicalisation islamiste, gérée par la DGSI. Et dans ce fichier, vous le disiez, Marc Rouget, il y a environ 19 000 personnes. Et là encore, eh bien, on ne peut pas surveiller tout le monde. Hein. Il faut choisir.
Non, on ne peut pas surveiller tout le monde, mais j'aimerais revenir sur votre point. Pourquoi on ne peut pas enfermer tout le monde non plus ? Il y a une question de droit. En général, c'est celle-là qui est mise en avant dans les médias, par les intervenants, en disant, mais écoutez, on est dans un état de droit, on ne peut pas faire ça, ces gens-là n'ont pas été condamnés. Moi, j'aimerais un peu m'écarter de cette question juridique, parce que dans le fond, le droit, il peut se changer. La loi peut se changer. Les députés peuvent décider de voter une loi beaucoup plus dure.
Ça se fait même très fréquemment, sur ces questions-là, notamment.
Mais il y a deux autres points à mettre en avant. Un, il y a un problème de faisabilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a en France déjà 69 000 détenus avec des prisons qui sont déjà surchargées. Donc si vous rajoutez, mettons, les 20 000 personnes du FSPRT, eh ben vous rajoutez des problèmes aux problèmes. Et puis un deuxième point, c'est un problème stratégique. D'autres États l'ont fait dans des contextes insurrectionnels. Les Britanniques l'ont fait au moment de l'IRA, des problèmes qu'ils avaient dans les années 70 avec l'IRA. Et en fait, ils ont fait de la détention administrative pour les sympathisants de l'IRA. Le problème, après, devient un problème de renseignement. C'est-à-dire que le renseignement n'est pas suffisamment fin pour cibler les vrais radicaux. Dans un fichier comme le FSPRT, vous avez effectivement des gens qui sont très très durs. Mais vous avez aussi des gens qui sont au début d'un processus de radicalisation. Et puis, comme dans tout processus administratif, parfois vous avez des erreurs. Ça arrive, la police n'est pas infaillible, comme toute administration, elle peut commettre des erreurs. Et en fait, si vous commencez à cibler très très largement ces personnes-là, si vous les enfermez, ça va produire un effet contre-productif. Parce que les personnes vont se sentir visées, vont se radicaliser, même si elles n'ont pas forcément fait grand-chose, ça va induire une spirale contre-productive. Donc encore une fois, il y a ces trois arguments, le droit, la faisabilité, la stratégie, et je crois que ce sont des arguments assez forts pour ne pas aller dans la voie de l'enfermement préventif de milliers ou de dizaines de milliers de personnes.
Alors Christophe Rouget, dans ce fichier, le FSPRT, vous le disiez, il y a entre 19 et 20 000 personnes, sont particulièrement surveillés ceux qu'on appelle le haut du spectre. Il y a 4 000 noms qui sont suivis, qui sont alors eux particulièrement surveillés parce que sans doute a priori particulièrement dangereux. C'est quel type de suivi pour ces gens-là ?
Il peut y avoir tout type de suivi. C'est justement la difficulté, c'est que nous avons des personnes avec des profils différents, qui sont sur des situations géographiques différentes. Donc le but des services de renseignement, ça va être de s'adapter à ces personnes. On va pouvoir faire un suivi physique parfois, on va pouvoir faire une enquête sur le territoire donné auprès des gens qui travaillent dans le secteur, qui vont pouvoir nous fournir des informations. On pourra avoir un suivi technique, avec des écoutes, on peut avoir des surveillances vidéo. On a tout un tas d'outils qui sont à notre disposition pour essayer de recueillir le plus d'informations possible, sachant quel est le but des services de renseignement. Recueillir des informations pour qu'on puisse judiciariser, c'est-à-dire avoir des éléments concrets.
Lancer des poursuites, quoi, c'est ça.
Ces individus vont passer à l'action pour qu'ensuite un magistrat et des policiers puissent faire une enquête et qu'on puisse amener cette personne devant un tribunal. C'est ça le but des services de renseignement, assurer cette prévention.
Est-ce que cela arrive, et je pose la question aux policiers, que des personnes condamnées pour association de malfaiteurs terroristes, qu'ils soient allés sur le terrain ou pas, ont simplement participé à des réseaux, sortent de prison et dont on perd la trace ?
Toutes les personnes qui sortent de prison, et là on a une grosse amélioration à faire, c'est la coordination entre les différents services, pénitentiaires et policiers. Aujourd'hui, quand un délinquant sort de prison, les policiers, par exemple, d'une ville ne sont pas au courant qu'il est sorti. Ça, c'est quelque chose où on doit progresser fortement. Mais ça peut arriver, effectivement. Donc là, c'est tout l'intérêt, c'est ce que je vous disais, c'est le suivi sur la distance. Ces personnes-là, elles vont sortir de prison. C'est comme si on mettait une fiche S aussi en prison, voilà, pendant quelques mois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle va, elle va bien sortir? À un moment donné, il va falloir la surveiller. Alors, il y a une notion d'efficacité. Là, ces personnes-là, il va falloir qu'il y ait un suivi, que la pénitentiaire avise les services de renseignement, ce qui est en train de s'améliorer, parce que les services de renseignement sont maintenant aussi dans la pénitentiaire, pour qu'on ait effectivement ce suivi, parce que vous avez une personne qui est encore plus dangereuse, parce qu'elle est désociabilisée et qu'elle va peut-être faire payer à l'État cette période de prison.
Marc Ecker, votre opinion de chercheur, comment est-ce qu'on peut améliorer ce suivi des gens qui sortent de prison et qui sont dangereux ou qui l'ont prouvé déjà?
En fait, la problématique déjà est plus large que ça. C'est-à-dire que si on reprend la question de la radicalisation, vous avez le suivi des personnes radicalisées qui ne sont pas poursuivies. Vous avez ensuite le suivi des personnes qui sont poursuivies mais qui ne sont pas mises en détention provisoire avant leur procès. Et puis ensuite, vous avez effectivement le suivi des personnes qui ont passé du temps en prison, qui ont été condamnées et qui sont libérées. Donc c'est déjà beaucoup plus de personnes que ce qu'on disait au départ. Comment l'améliorer? Eh bien, il y a évidemment la question sécuritaire du renseignement. Il faut des forces de police en nombre suffisant, du renseignement territorial pour savoir ce que deviennent ces personnes. Et puis, il faut voir aussi qu'on a un problème de long terme et qui ne va pas se régler uniquement par la question de la sécurité. C'est-à-dire que là, il faut mettre en place des programmes de désengagement. Je n'ose plus employer le terme déradicalisation parce qu'il a été beaucoup utilisé et qu'il est galvaudé. Mais enfin, il faut travailler là-dessus. Et du coup, il va falloir aussi avoir, pour les individus peut-être qui sont évalués comme étant les moins dangereux, mettre en place des suivis sociaux, des suivis psychologiques, avec des éducateurs spécialisés, avec des travailleurs sociaux, avec des psys qui vont les encadrer et faire en sorte qu'ils se réinsèrent le mieux possible, sans nécessairement qu'ils soient déradicalisés, au moins qu'ils quittent la logique de la violence et qu'ils mènent une vie aussi normale que possible.
Christophe Rouget, je reviens juste, et on va revenir là-dessus, sur le haut du spectre, 4000 non suivis par la DGSI. Il y a combien de policiers à la DGSI? Parce que Marc Ecker évoquait la question des moyens. C'est une question importante, ça?
C'est une question importante puisque il faut des hommes de terrain pour assurer une surveillance. Bien sûr, tout le monde le dit, il faut des analystes qui, justement, à l'aide justement d'analyses comme ça, permettent d'orienter nos recherches, de les cibler. Mais ensuite, le renseignement, il se fait comment? Il faut avoir des personnes sur le terrain, le renseignement territorial et la DGSI, qui puissent, une fois qu'on a détecté la personne, faire cette surveillance. Et ça, on l'a souvent oublié. Alors, il nous faut progresser dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon maillage territorial. Et ensuite, le renseignement, c'est d'essence policière. Il faut avoir des personnes sur le terrain qui ont les moyens. Et pour que ces personnes aient les moyens, il faut avoir des bons outils technologiques. On ne les a pas au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Il faut pouvoir avoir des systèmes, des plateformes pour les écoutes, les interceptions judiciaires qui marchent. La PNIJ, elle ne marche pas. Il faut avoir des bons logiciels. Mais il faut avoir aussi des gens sur le terrain qui soient capables d'aller faire des enquêtes. Et si vous n'avez pas la procédure pénale qui est allégée en France, vous passez votre temps au bureau à faire soit des tâches administratives, soit de la paperasse pour la procédure pénale, et vous n'êtes pas sur le terrain. C'est toute la difficulté. C'est l'enjeu pour réussir demain un renseignement plus efficace.
Pour répondre à la question précise que vous avez posée, la DGSI, c'est à peu près 4500 personnes, et le renseignement territorial, moins de 3000.
D'accord. Donc c'est en fait impossible, et on le savait déjà, de mettre un policier en permanence derrière quelqu'un qui est à surveiller. Et ce serait d'ailleurs contre-productif, puisque le renseignement...
C'est impossible.
C'était évidemment techniquement impossible et sans doute un peu contre-productif. Des djihadistes qui vont en prison, qui en sortent et qui recommencent, cela existe? Vous avez rencontré le cas dans votre étude, Marc Ecker, avec des gens qui étaient partis en Afghanistan notamment.
Il y a plusieurs cas de récidive effectivement dans mon étude. Je distingue deux grandes catégories. Les récidivistes qui, après avoir purgé une peine de prison en France pour association de malfaiteurs terroristes, partent sur une terre de djihad à l'étranger, et pour certains, ils meurent. Et puis, cas plus inquiétant pour la sécurité nationale, ceux qui récidivent en passant à l'acte sur le territoire national. Et là, il y a deux cas connus, Chérif Kouachi, tout d'abord, un des assassins de Charlie Hebdo, et l'autre cas, c'est Larossi Abala, le tueur de Magnanville, qui avait été condamné dans une précédente filière djihadiste vers le Pakistan. Et chose intéressante et d'actualité brûlante, l'émir de cette filière va d'ailleurs être libéré dans les tout prochains jours et il devrait être extradé puisqu'il s'agit d'un ressortissant étranger.
Alors, je reviens, Christophe Rouget, sur la réponse judiciaire. L'association de malfaiteurs à caractère terroriste, c'est souvent du ressort du tribunal correctionnel. Est-ce qu'on peut le criminaliser pour obtenir des peines plus lourdes? Ça vous paraît être une bonne piste?
Ça a été une tendance ces dernières années. Le parquet antiterroriste a criminalisé beaucoup de dossiers. Donc on est dans cette phase-là. Mais malgré tout, au bout du bout, même si la peine est plus importante, ces personnes, elles vont ressortir. Si elles sont condamnées à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, elles vont ressortir. Et pour nous, c'est toute la difficulté. Parce qu'une fois que vous avez cette personne qui aura perdu tous ses repères, qui aura passé des années là en prison, elle peut, comme les cas qui viennent d'être cités, recommencer et avoir une attitude kamikaze. Donc c'est toute la difficulté pour nous de gérer ces personnes dans le temps. Et pour l'instant, l'État n'a pas tout fait. La police ne pourra pas tout faire sur le renseignement. Il faut qu'on analyse toutes les lois du renseignement, qu'on les décrypte, ce qui marche, ce qui ne marche pas. On ne sait pas le faire en France. Il faut faire des retours sur expérience et regarder. On a eu des lois qui se sont multipliées. Pourquoi cette disposition ne marche pas et celle-ci marche? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Il faut simplifier le renseignement. Aujourd'hui, on a un dédale de services avec des services de coordination multiples. Et si on veut améliorer la circulation de l'information, il faut demain simplifier les services de renseignement.
Alors, Marc Ecker, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Comment, et vous aussi, le renseignement en prison, il y a des expériences qui sont tentées. Alors, on a essayé dans un premier temps de mettre tous les radicalisés ensemble et puis après de les répartir sur tout le territoire. Est-ce que ces expériences se sont avérées être des échecs ou est-ce que ça permet de progresser? En fait, on apprend en marchant dans cette affaire-là.
On apprend en marchant. Faut distinguer deux choses. Faut distinguer la question du renseignement pénitentiaire qui est en train de monter en puissance et qui a rejoint ce qu'on appelle le deuxième cercle du renseignement, ce qui a permis de créer des liens beaucoup plus étroits avec les autres services et en particulier avec le renseignement territorial. Là-dessus, je pense qu'on progresse vraiment, c'est-à-dire que les personnes condamnées pour terrorisme qui vont être libérées, je pense qu'il y aura vraiment un passage de témoin entre le renseignement pénitentiaire et le renseignement territorial ou la DGSI. Et puis, il faut distinguer ça du traitement des terroristes en prison, effectivement, avec la question essentielle qui est, faut-il les regrouper ou les laisser avec les autres détenus? Avec dans les deux cas des inconvénients. Mmh. Si vous les laissez avec les autres détenus, il y a un risque de contamination idéologique. Si vous les regroupez, ils risquent de s'endurcir mutuellement et de planifier des attaques.
Et alors, donc, en ce moment, il y a des tentatives pour créer des quartiers où ils sont évalués, alors ils sont ensemble, mais à la fois répartis dans les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu?
Ça s'appelle les CAIR, les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Et effectivement, l'objectif, c'est sur une période de 4 mois d'évaluer la dangerosité de ces personnes. Donc, ce sont des personnes qui, pour beaucoup, vont être jugées dans les prochains temps. Et ça permet ensuite de les orienter vers telle ou telle prison en fonction de leur niveau de dangerosité. Mais effectivement, on tâtonne un peu sur ces questions-là, parce que c'est un dispositif relativement récent et qui peut être encore amené à évoluer et à progresser.
Christophe Rouget, ces questions-là, c'est ce que je disais, on apprend en marchant, il faut tout tenter, tout expérimenter dans ces questions-là.
On tâtonne, mais sans doute n'a-t-on pas aussi anticipé. Nous, ça fait longtemps qu'on a signalé et que des responsables du renseignement ont dit « attention, il faudra mettre des mesures en place ». Pourquoi? Parce que si on détecte une personne ou qu'on la surveille, mais qu'il y en a 9 autres pendant cette période, ce temps-là qui se radicalise, on n'arrivera à rien. Donc on a l'État qui a pris beaucoup de retard sur ces mesures. Aujourd'hui, on est dans les balbutiements. Et surtout, il faut qu'on prévienne les nouveaux, parce que là, il faut surveiller cela. Mais si, pendant ce temps-là, on ne prend pas de mesures pour lutter sur ces terreaux dans nos cités, dans nos banlieues, lutter contre le salafisme, lutter contre cette démagogie qui peut arriver dans ces quartiers-là, on n'arrivera à rien. Et là, on a beaucoup de retard dans ce domaine.
Alors, dernière question, et j'en avais plein encore, hein, mais les femmes et les familles, les enfants, est-ce que c'est un risque qu'on ne mesure pas encore bien? Comment est-ce qu'on peut les surveiller? Est-ce qu'on a été naïf? Il y a une transmission générationnelle, Marc Ecker?
Je crois qu'on prend clairement conscience du risque aujourd'hui, en tout cas pour les femmes, notamment depuis la tentative d'attentat à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Pour les enfants, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un danger avec les plus âgés, mais malheureusement, on voit aussi que parfois très très jeunes, certains enfants ont été amenés à commettre des exactions en Syrie.
Alors, on a vu ça dans des vidéos de propagande qui sont particulièrement traumatisantes et que je ne recommande à personne d'aller voir sur Internet. Merci à vous deux, merci Christophe Rouget, merci Marc Ecker d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles avec notamment l'application RFI Pure Radio rubrique magazine. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.